français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, il va falloir encore patienter un an. 365 jours d'attente avant qu'une débute dans notre pays le plus grand événement rugbystique de la planète. J'ai nommé la Coupe du Monde de rugby qui pour la deuxième fois de son histoire va donc faire étape en France. Une Coupe du Monde qui suscite l'enthousiasme évidemment chez tous les passionnés d'Ovalie, d'autant que l'équipe de France n'a jamais semblé aussi forte et autant en capacité de remporter ce trophée qui lui a toujours échappé jusque-là. Et aujourd'hui, entre les poteaux, nous allons faire le point complet sur cette Coupe du Monde, notamment sur nos Bleus, l'équipe de France qui depuis de nombreux mois maintenant vit sur un nuage. 10 victoires d'affilée, des joueurs de très haut niveau, un sélectionneur qui l'est tout autant. Nous écouterons Fabien Galthié qui a fait une petite tournée médiatique cette semaine. Et les Bleus ne sont évidemment pas les seuls à postuler au titre mondial. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande ou Angleterre, où en sont nos adversaires et quels sont ceux qui inquiètent le plus les poteaux? Dans l'édition du jour, nous allons également revenir sur la très mauvaise nouvelle du jour, à savoir celle qui concerne Virimi Vakatawa, le centre international du Racing, dont la commission médicale de la Ligue nationale de rugby a décidé de suspendre sa carrière, de lui interdire de pratiquer le rugby. Wilfried Templier nous donnera les dernières informations. Pour évoquer tous ces sujets, on a sorti la grosse équipe, celle que Fabien Galthié qualifie de premium. Denis Charvet. Bonjour Denis, comment ça va?
Salut messieurs.
C'est la première fois que tu es premium quand même. Hein?
Ah oui?
Ça te va bien?
Ah ouais.
Léo Faure, notre confrère de Midi Olympique. Salut Léo.
Salut l'équipe.
Et puis nos deux inséparables, Wilfried Templier et Julien Landry. Comment ça va les garçons?
Salut, salut. Nickel. Ça va?
Salut, salut messieurs. Parfait.
Allez, c'est parti messieurs, 8 septembre 2023, je sens le parfum d'ici, il est 21h, nous sommes dans un stade de France comble, les deux meilleures équipes du monde face à face, dire qu'il va falloir patienter encore un an avant de voir ce France-Nouvelle-Zélande et les 47 autres rencontres qui suivront jusqu'au 28 octobre.
Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi.
Les All Blacks, est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est des chanteurs, non?
Le premier défi de ce quart de finale.
Coupe du Monde, il n'y a personne qui a assuré de l'affaire.
Il y a Boubacar qui s'échappe,
la bousculade et une Marseillaise improvisée à l'aéroport de Roissy pour les joueurs français.
Là, on ne donne pas ce début de match.
Jamais l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points d'écart.
L'équipe veut éviter l'euphorie, mais la fièvre du rugby semble gagner toute la France.
Allons pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens.
Aujourd'hui on est venu chez vous. Hein? Ta mère, c'est ta main. Alcaraz, il y a Trélissac. Hein?
Pour beaucoup d'entre nous, c'est le dernier match. Hein? Dernier match de l'équipe de France. Hein? On le savoure, hein? On prend tout.
Voilà quelques grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde, de l'histoire de l'équipe de France. Il y avait même un moment avec Denis, me semble-t-il.
Oui, hein, demi-finale 87
contre ouais. L'Australie, ce match mythique. T'étais là.
Ce TDC de bout du monde de Serge Blanco. Ouais. Ouais, j'étais là, bien sûr. Voilà.
Tu veux une anecdote, Denis?
Vas-y.
J'étais en CP et je regardais le match avant d'aller à l'école. Mais je te jure, c'est pas pour te vieillir, mais...
Tu veux une anecdote, Denis?
Je t'ai badé.
Toi, t'étais en...
Moi, j'étais étudiant, étudiant. J'avais fait une fête incroyable et je en sortant de la fête, je me suis mis à écouter. Je l'avais écouté à la radio, je crois. J'ai même pas vu la télé ce match.
Il était à la radio. Elle était à la télé, mais à la radio, sûrement, il était à la radio.
Voilà, match mythique. Il y en a eu d'autres, évidemment, depuis, heureusement. Et on espère, évidemment, qu'il y en aura beaucoup dans un an, avec notamment ce France-Nouvelle-Zélande qui ouvrira la compétition et qui la clôturera peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience pour tout le monde. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais attendu une Coupe du Monde avec autant d'impatience. Denis, ton avis là-dessus?
Mais surtout avec l'engouement que ça suscite. On voit qu'avec la vente des billets qui a explosé, donc il va y avoir des stades pleins par tous les matchs, même les matchs qu'on dit un peu moins
premium,
ben il va y avoir le stade seront remplis. Non, c'est vrai que ça va être une grande fête. Après, on est à un an de la Coupe du Monde, on commence à sentir un petit peu l'inquiétude parce qu'on attend tellement cette équipe de France, on la met tellement favorite que on peut être inquiet aussi.
Ouais. C'est parce que l'équipe de France fait partie des grands favoris qu'il y a autant d'excitation, Wilfried ?
Oui, parce qu'elle a battu. Alors, on attend l'Afrique du Sud en novembre avec impatience, mais parce qu'elle a battu tout le monde en fait. Hein. Donc,
Et l'Australie,
regardez les pourcentages de victoires. Ouais, ouais. Il y aura l'Australie aussi, mais on les a déjà battus chez eux l'été l'année dernière. Mais je regardais le pourcentage de victoires. On est à quasi 78% de victoires sous l'ère Fabien Galthié. C'est du jamais vu.
Donc, premium ou pas premium?
C'est bon, allez, premium et deuxième classe mélangée. mais voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est 64%, l'Afrique du Sud, 58%, même s'ils se rencontrent un peu plus. Donc, est-ce qu'on aurait le même pourcentage si on jouait dans l'hémisphère sud? Peut-être pas. Enfin bon, on va pas en faire le truc, mais voilà, on n'a jamais vécu ça.
Enfin, quand tu joues l'Irlande, le Pays de Galles, oui, c'est quand même aussi des grosses équipes. Hein, donc, ouais, on n'a pas non plus à pâlir du fait qu'on ne joue pas l'Afrique du Sud ou l'Australie tout le temps. Quoi.
Mm-hmm. Non, c'est pour ça.
Julien, vas-y.
Non, je dis, si on se retourne sur 2007, la Coupe du Monde, c'est vrai que pour le coup, c'était la première Coupe du Monde en France, mais on ne sentait pas cet engouement qu'il peut y avoir cette année, parce que on arrive peut-être aussi à s'identifier à cette équipe-là. Elle fait plaisir à voir jouer, même si en 2007, c'était Bernard qui était aux commandes. Mais c'est vrai que 15 ans plus tard, j'ai l'impression que c'est nouveau, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de cette équipe de France, et que c'est vrai que tout le monde a hâte que cette Coupe du Monde démarre.
Est-ce qu'on le sent, Léo, également à Midi Olympique, dans les ventes notamment? Est-ce que vos lecteurs vous demandent plus de papiers concernant la Coupe du Monde? Comment c'est vécu justement dans le journal du rugby?
Ouais, on le sent sur l'équipe de France, déjà c'est évident, mais parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a une génération en plus qui est sympa, sur laquelle on s'identifie pas mal. Mais c'est pas seulement la Coupe du Monde de rugby, on voit que c'est un événement qui à chaque édition prend un peu plus d'ampleur, qui continue de croître, et on le voit chez les étrangers. On annonce entre 600 000 et 800 000 supporters étrangers, c'est gigantesque. Donc c'est vraiment un événement planétaire, et l'engouement on le sent venir de partout, quoi. Donc oui, forcément on le sent chez nous, dans nos contenus, on le sent autour de l'équipe de France, mais vraiment sur l'événement dans sa globalité, c'est clair qu'il y a une impatience déjà à un an qu'on n'avait peut-être pas en 2007 pour le coup. Oui, je suis assez d'accord avec Julien.
Oui, mais aussi le fait que le rugby n'était pas à son niveau médiatique aujourd'hui qu'il était en 2007. Je suis désolé. Aujourd'hui, le rugby a pris une dimension internationale qu'on n'avait pas en 2007. Donc aujourd'hui, cette effervescence-là, cet enthousiasme-là, ça passe aussi par le succès du rugby dans notre monde.
Denis, justement, tu as participé à la première édition de la Coupe du Monde.
Le Japon.
En 87.
Le Japon en 2019.
Ouais.
C'est World Rugby Table sur des influences moyennes, et au final ils prennent un raz-de-marée de supporters étrangers. Il y a vraiment un engouement pour ce sport et pour cet événement particulièrement, où les gens viennent, font la fête, visitent au passage. Il y a vraiment quelque chose qui prend autour de cet événement Coupe du Monde Rugby, et au niveau planétaire. Ouais.
Mais souvenez-vous, c'est quand même Albert Ferras qui a porté la Coupe du Monde, qui a amené la Coupe du Monde. Je dis ça, mais c'est vrai, ça revient à la France quand même. C'est cette idée qui était dans l'air. Mais quand tu me parlais de la première Coupe du Monde, oui, on était
pionniers. Est-ce qu'on en parlait en France avant le début de la compétition?
Oui, quelques médias, mais c'était très intimiste. Quoi. C'était pas les grands médias. Alors si, tu peux avoir des grands médias. Tout le monde en parlait, mais c'était pas l'effervescence, c'était pas les points de presse qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même, médiatiquement, ça n'a rien à voir. Il y a un monde.
Alors, les Bleus sont sur un nuage, hein, on le dit depuis longtemps. Maintenant, encore va-t-il falloir y rester sur ce nuage? Il reste pour préparer cette Coupe du Monde 12 mois, une tournée de novembre dont on va parler, un tournoi à destination suivi de 4 matchs de préparation qui auront lieu l'été prochain, ce qui nous donne en tout 12 matchs. Le but, ce sera évidemment de rester sur la même dynamique. Pour cela, Fabien Galthié a sa méthode et deux équipes bien distinctes. On en parlait tout à l'heure, l'équipe premium et l'autre. Il s'en est expliqué hier soir sur Canal+, et aussi ce matin dans les colonnes de Midi Olympique. On écoute le sélectionneur.
On a construit en fait deux équipes de France. Donc on a une première équipe de France qui joue novembre et le tournoi. Et à mi-mars, elle arrête. Pourquoi? Parce que le calendrier, notre calendrier ne nous permet pas de solliciter ces joueurs-là. C'est l'équipe premium. Et eux, par contre, ils ont quasiment 87% de victoires. Et après, on a construit notre équipe de France pendant l'Automne Cup, pendant la tournée en Australie au mois de juillet, pendant la tournée au Japon au mois de juin, qui est en fait une équipe de France, on appelle ça développement, incubation, où on fait revenir des joueurs qui viennent de blessures, qui ont peu de temps de jeu, ou des jeunes joueurs, parce que c'est ce qui correspond le mieux pour le moment au calendrier qu'on nous propose et qui permet de mieux gérer, notamment vis-à-vis des blessures et puis de l'énergie, parce que la qualité première d'une équipe, c'est pas le talent, c'est d'abord son énergie, ses convictions, son ambition. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une équipe qui a beaucoup d'énergie.
De l'énergie, et donc deux équipes bien distinctes. Il y a d'un côté les titulaires, de l'autre côté ceux qu'on a appelés les costards-cravates à un moment donné, ou les coiffeurs. On sent que...
C'est un génie quand même, Fabien Galthié, parce qu'il vient de nous l'inventer ça hier soir. Hein, parce qu'on n'avait jamais entendu parler avant hier.
Je vous avoue, je ne l'ai pas entendu hier, parce que je n'ai pas regardé l'émission.
C'est incroyable, parce qu'en fait...
Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Voilà, donc là, j'arrive à un point où Non, non, il est bon.
Julien, non, mais il invente des histoires, parce qu'il ne faut pas oublier que la première tournée en Australie où Melvin Jaminet est révélé au grand public, il part sans les Toulousains parce qu'ils sont en finale et qu'il ne peut pas les prendre.
Exactement.
Et que du coup, il fait contraint et forcé de se faire sans les Toulousains. L'Auton Cup, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas le droit de sélectionner plus de joueurs à cause du Covid et qu'il ne peut pas enchaîner les performances. Et que du coup, 2 ans après, il nous crée l'histoire de l'équipe premium qui joue que la tournée de novembre et le tournoi destination. Et qu'après la tournée d'été, ils envoient des jeunes joueurs au casse-pipe. Il est génial parce qu'il invente tout et tout le monde le croit ce qu'il nous raconte. C'est une magnifique histoire qu'il a inventée hier soir. Tout le monde est d'accord avec ça.
Non,
mais c'est une aubaine.
Franchement,
c'est une aubaine.
Oui, mais après,
mais pour le coup, il. Oui, mais
avec
c'est une aubaine.
Voilà, avec le Covid, qui a fait sortir des Dulin, des Danty, après en Australie, des Jaminet. Mais c'est. Il voulait caper beaucoup de mecs, il voulait avoir 26 ans de moyenne d'âge, 50 sélections, il les aura pas, mais il a d'autres joueurs en fait.
Mais c'est l'histoire
Il voulait s'arrêter à 50 joueurs sélectionnés et il en a pris 120 quasiment.
Mais l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire du rugby, je suis désolé, ça de tout temps, il n'y a pas eu des premiums de seconde équipe, il y a des joueurs et à un moment donné, il y a des situations qui font que tu n'as pas ces joueurs parce qu'il y a une finale de championnat comme tu l'as dit, et tu fais avec. Mais après, le problème qu'il va avoir, lui, c'est... Alors, quand il me parle de talent, le talent, c'est avant tout le talent, d'abord.
Il dit l'énergie est plus importante.
Oui, moi, je ne suis pas d'accord. L'énergie, tu dois l'avoir naturellement. De l'énergie, c'est à toi de l'insuffler, c'est à toi de l'apporter.
Non, mais tu parles du rugby de papa, là, Denis.
Non,
ça a changé,
mais
c'est le rugby, quand même.
Mais si tu n'as pas un Dupont, tu crois que tu vas gagner la Coupe du Monde. Si tu n'as pas un Ntamack...
Mais si
tu
as un Dupont pas en forme, tu ne la gagnes pas, la Coupe du Monde.
Mais il sera en forme, ça ne sert à rien dire. Mais justement, le travail... Le travail à un an, c'est la gestion. Je suis désolé, aujourd'hui, leur travail, leur vrai travail, c'est d'arriver justement à gérer cette capacité à rebondir et à être en forme à l'instant T. Mais ça, c'est leur boulot quand même.
Ça se travaille en amont, ça.
Oui, mais ça se travaille à partir de maintenant, avec les clubs, comme il l'a dit.
Ouais, on va écouter.
Non, mais je veux dire, c'est naturellement que ça va se faire. Je crois que tous les joueurs sont concernés. Dupont l'a dit hier après le match à Bègles, à Bordeaux. Donc, voilà, moi, il faut le talent quand même. Oh.
Léo,
non,
tu
mais
voulais...
quand même, Fabien, ne nous raconte pas une salade quand même.
Léo, tu voulais dire.
Attends, t'as pas entendu parler de prophylaxie encore.
Non, mais. Ce que je disais, c'est que l'énergie, quand t'arrives en Coupe du Monde, t'arrives après une préparation qui est entre guillemets exceptionnellement longue pour ce sport. Et tout le monde l'a, l'énergie. Donc à un moment, c'est effectivement le talent individuel ou même collectif qui va faire la différence. Mais pour revenir à cette histoire de deux équipes, en fait, il fait un effet d'aubaine. C'est une situation qu'il a subie comme tous les autres, notamment le Covid. Et derrière, il crée des éléments de langage et de com pour se réapproprier le truc. Mais en fait, il l'a subi, forcément.
Pour rebondir sur le talent, moi il y a toujours des gens qui disent « Ouais, personne n'est irremplaçable. » Mais heureusement qu'il y a des joueurs irremplaçables, qui ne sont pas remplaçables. Il y a Dupont, un Ntamack, un Julien Marchand.
Alors, je suis d'accord avec toi que ce serait beaucoup mieux avec eux. Après, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Les mecs peuvent se blesser à un moment de la Coupe du Monde pendant la préparation. Mais ça, il faudra bien les remplacer. Alors, évidemment, tu n'auras peut-être pas le même talent. Mais bon, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a une équipe de développement, une équipe de réserve et qui est là pour faire la différence.
Mais on a jamais
on sait qu'il y a un nombre de blessés incalculable pendant
le talent,
de top 14.
Mais ce que je veux dire par là... Il y a un vivier incroyable de talent qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération.
Et tu ne peux pas faire jouer tout le monde
Tu ne peux pas toujours. Mais sauf qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Dupont est meilleur que les autres. C'est comme ça. Donc, effectivement, si tu as la Coupe du Monde sans Dupont, ça sera un peu plus compliqué de la gagner. Je ne dis pas que tu ne la gagneras pas. Ouais. Tu peux la gagner, mais ça sera un peu plus compliqué.
Le sélectionneur qui, avec son staff, a également établi. Alors là, je pense que ça va encore plus t'énerver, Denis. 7 indicateurs de performance pour savoir où en sont les joueurs. Y a. Alors, nous avons la prophylaxie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être Denis.
Ah, je sais pas du tout.
Anticiper les blessures. C'est anticiper les blessures.
D'accord, ça, oui.
Ça, tu peux anticiper les blessures. Oui. Je sais pas.
On
si
savait qu'il y avait des blessés, mais bon, oui, d'accord. Okay.
Ailleurs, deuxième élément, l'énergétique. Donc, ça, c'est. Voilà.
Ouais, l'énergétique, oui.
Ça, c'est ce que c'est. Le métabolique.
Métabolique, oui, d'accord.
La vitesse, tu sais, ça, tu l'avais, toi, la vitesse,
par exemple.
Toi, t'avais un bon indicateur
de
performance
sur la vitesse.
Ouais,
c'est bon.
Le neuromusculaire, alors ça, t'étais un peu moins ton truc, le neuromusculaire.
Ouais, neuromusculaire, d'accord.
Surtout
ouais,
le neuromusculaire.
C'est Vincent,
pas
oui, c'est Vincent.
Et puis, nous avons aussi la force horizontale et la force verticale.
Ah, voilà. Là, on rentre dans les détails, là.
Ouais.
D'accord.
Il n'y a plus trop l'horizontale.
La prophylaxie, c'est les mesures à prendre pour prévenir les maladies, exactement.
Mais ils vont chercher ça où, là? Expliquez-moi, là.
Les gaufres,
Là, ils s'enferment et ils vont 8 heures ensemble et ils s'arrosent. Non,
c'est un peu scientifique tout ça, mais on ne peut pas leur reprocher.
Ceci étant
des années qu'on a vécues. On peut pas leur reprocher d'aller à la NASA maintenant, hein, même si on caricature un peu ça. Quoi.
Je me moque amicalement. Je sais qu'ils font du très bon boulot. J'ai toujours dit du bien du staff de l'équipe de France et de Fabien en premier lieu. Donc, non, bien sûr. Et après, c'est la com. Ça me dépasse un peu, quoi. Là, ouais. Parce que je suis un vieux con. Ben.
Vous y croyez ? Alors, on va demander aux jeunes cons ce qu'ils en pensent. Voilà. Léo, par exemple. Léo, tu y crois à tout ça ?
Après, c'est... Ce qui nous surprend un peu, c'est qu'ils communiquent dessus, parce que c'est des choses qui quand même existent dans les clubs aussi. Ils inventent pas complètement une méthode. Aujourd'hui, on le sait que c'est hyper pointu sur tout ce qui est le suivi du joueur, notamment sur la prépa physique, il y a énormément de data, tout est quantifié. Donc voilà, c'est vrai que c'est rare que par contre que les entraîneurs communiquent dessus, mais je suis pas sûr qu'il ait révolutionné la chose. Bah, il l'a effectivement énormément professionnalisé au niveau du 15 de France, c'était beaucoup moins le cas avant. Donc après, la seule chose qui compte, c'est les résultats. Les résultats, il les a. Donc forcément que sa méthode, elle fonctionne. On peut raconter ce qu'on veut, il a les résultats. Donc cette approche scientifique, elle fonctionne.
Eh oui, effectivement, les résultats.
Il a mis des mots sur une préparation, mais je suis d'accord avec Léo, il a rien inventé. Mais là, il fait un peu le savant fou des fois. Alors, on le critique sur ce côté-là, mais c'est vrai que.
Honnêtement,
ça va un peu loin. Non, mais après,
peut-être
et on n'a pas parlé des datas des 120 mètres par seconde, 140 mètres par seconde à l'entraînement.
Tu sais quoi, Julien mètres, non, ah, oui. Julien, je pense qu'il se nourrisse de ça aussi. Je crois que lui, il a besoin de ça. Donc, il y a aussi un effet, miroir quelque part. C'est-à-dire que lui, il a besoin de
ça. Oui, c'est nouveau parce que moi, pour l'avoir côtoyé longtemps à Montpellier, où pour le coup il nous développait beaucoup sa méthode. Alors lui, il avait initié les fameux petits carrés là à l'entraînement, où il avait dessiné des carrés sur le terrain, où les zones où il fallait jouer et pas jouer, et ça c'était nouveau. Mais jamais il nous a parlé de force verticale, horizontale, de prophylaxie, ainsi de suite. Alors peut-être que c'est des choses qu'il a appris avec l'expérience, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de communication autour de lui de ça, et il essaye de rendre son projet un peu nébuleux peut-être pour montrer que ça marche aussi.
Ouais, Wilfried, tu es convaincu toi par ce rugby scientifique? Ça manque un peu de romantisme tout ça quand on écoute ça, même sur le terrain évidemment il y a des choses qui se font et qui ne sont pas quantifiables.
Je vous parlais de NASA, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand il explique que entre les deux zones des 22 mètres, plus ils passent de temps là-dedans, moins ils sont efficaces. Ils ont tout analysé de leur match, pour tendre vers le plus d'efficacité.
Oui, mais...
et tu l'as dit, les résultats parlent pour eux. On peut pas. Voilà, on est à 10 victoires de suite. Si on bat l'Australie, on aura la plus longue série de l'histoire de victoires du 15 de France. Début novembre.
Évidemment, hein, ça plaît pour lui. Évidemment, les victoires plaisent pour lui. Moi, la tendance, pour moi, à compliquer tout. Voilà, c'est tout, c'est ce que je pense. J'ai l'impression que le rugby est quelque chose de simple et on essaie de.
Je sais pas, Denis, si compliqué. C'est compliqué. C'est surtout voir le rugby qui gagne, quoi. Analyser le rugby mondial, chaque match et voir que faut pas faire ci, faut pas faire ça.
Mais tous les clubs le font. Wilfried, tous les clubs le font.
Bah,
ils font la même chose. Mais non, mais c'est pas pour ça qu'ils gagnent. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y en a qu'un qui gagne à la fin, un ou deux.
Alors s'il reste donc 12 mois avant le début de la compétition, la préparation en elle-même sera très courte, hein, 7 semaines seulement qui interviendront après une saison au club très longue. La convention, on le sait, on le rappelle régulièrement, a grandement amélioré les conditions du staff de l'équipe de France, notamment pour la mise à disposition des joueurs. Faut-il aller plus loin en cette année pré-Coupe du Monde, pardon, et demander au club des sacrifices supplémentaires? Voici la réponse qu'a apporté le sélectionneur hier soir.
Nous, on ne peut pas dire au club, ne faites pas jouer les joueurs que vous payez le plus et qui sont les meilleurs. Vous comprenez bien, ce sont les plus gros salaires, ce sont les meilleurs joueurs. Et c'est une injonction paradoxale qui existe dans le rugby professionnel français depuis des années, donc on ne va pas changer ça. Je crois qu'on arrive à discuter maintenant, à bien dialoguer avec les managers et aussi avec les joueurs, parce que c'est une relation à trois. C'est le joueur et son club, et c'est nous. Par exemple, là, sur la préparation, on en parle, nous, on sait que... on n'a que 7 semaines de préparation. C'est-à-dire que la finale, c'est le 17 juin. On aura la préparation pour une Coupe du Monde la plus courte qui n'a jamais existé.
Préparation très courte donc pour cette Coupe du Monde. Galtier qui ne veut pas être plus royaliste que le roi. Vous pensez que c'est impossible aujourd'hui de demander plus au club, notamment impossible. Peut-être après le tournoi, d'essayer de faire tourner un peu les internationaux? Non, pour vous, c'est impossible. La convention ne le dit pas, donc la convention ne sera pas modifiée d'ici là. Il n'y aura rien à faire, Denis, là-dessus.
Je ne sais pas s'il y a rien à faire. En tout, cas,
tu parlais de Dupont. Dupont va devoir jouer tous les week-ends.
Non, il ne jouera pas tout.
Jusqu'au combien, 17 juin ?
C'est impossible. Hugo Mola est assez intelligent pour savoir le ménager, le reposer quand il le faut. Ouais. Après, Hugo Mola, il a bien répondu de manière très concrète. Il a dit si moi, mon club, à un moment donné, je suis obligé de. Je suis dans une situation où je suis obligé de faire jouer, je le ferai jouer. Donc il a quand même,
Christophe,
il a quand même cette.
Ouais, bien sûr. Wilfried.
Tu parles d'après le tournoi, mais moi je pense que c'est parce que c'est surtout avant le tournoi, parce que après le tournoi on arrive à avril, mai, juin. Mmh. C'est les matchs qui comptent, des phases finales de Coupe d'Europe, des phases finales de Top 14. Donc c'est certainement avant le tournoi. Là, le Stade Toulousain et l'équipe de France n'ont pas su le faire l'année dernière. Je parle du Stade Toulousain parce que voilà, je suis ce club et parce que c'est le club qui fournit le plus d'internationaux. Dupont a 30 matchs l'année dernière, Ntamack 32 par exemple. C'est beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop. C'est trop.
Oui, ça devrait être 25 par rapport à d'autres. Une moyenne de 25.
Ah, ça devrait être 25 maxi, ouais. Mmh. Donc, c'est peut-être avant le tournoi qu'il va falloir, là, maintenant, septembre, octobre, novembre, décembre, mieux gérer ses joueurs.
Mais je suis d'accord avec toi.
Ah, sauf que le Stade Toulousain, ils veulent lever le bouclier en fin de saison et que tu peux perdre des points en novembre, en février. Tu peux perdre des points, tu peux jamais perdre deux points, en fait, dans ce championnat maintenant.
Mais Julien, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ça fait deux ans que c'est le premier ou le deuxième du championnat qui est champion.
Eh oui, donc c'est pour ça que tu peux pas perdre de points en cours de saison, tu peux pas faire tourner dans ta saison.
Et le Stade Toulousain quasiment a perdu beaucoup de points pendant les doublons. Alors il y a eu aussi le problème des Covid qui a remporté je crois les
Denis
matchs.
Denis Julien, le Stade Toulousain était cuit, les Dupont, Ntamack étaient cuits en demi-finale contre Castres.
Mais oui, mais on est d'accord.
L'année dernière.
Mais parce qu'ils ont joué un match de barrage contre qui avant ? Contre
la Rochelle. Ils ont pas joué qu'un match de barrage.
Oui, mais le match de barrage, ils ont plombé.
Parce que Wilfried, ils ont couru depuis janvier aussi à la qualification parce que ils ont été hors des clous pendant quelques temps.
Parce qu'ils ont joué trop de matchs.
Ils ont joué trop. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est compliqué à gérer les. C'est compliqué à
peut-être
gérer
que sans
les
eux, ils ne seraient pas qualifiés, c'est vrai, je suis d'accord
exactement
avec vous.
Oui, mais c'est ça la problématique, c'est que sans eux, peut-être qu'ils ne seraient pas qualifiés, tout simplement.
Léo, tu penses que les managers de club vont pouvoir s'entretenir avec le staff de l'équipe de France pour essayer d'aménager un emploi du temps un peu moins chargé pour les stars de l'équipe de France ?
L'entente, elle est déjà là, en fait. Donc, je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Wilfried l'a dit. Après le tournoi, donc, on peut se dire, ils vont reposer avant d'entamer la prépa Coupe du Monde. Sauf que c'est les matchs les plus importants de la saison. C'est les joueurs les plus importants des équipes. Les clubs, quand même, donnent déjà beaucoup. Il en est conscient, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, Fabien Galthié, qu'il le sait. Il a d'ailleurs été entraîneur de club, donc il est bien placé pour le savoir. Très franchement, je pense que non, on n'ira pas beaucoup au-delà de ça. Alors oui, ça va faire quand même des saisons à 30 matchs pour certains, et c'est trop. Mais le contexte du rugby français fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'il compose avec ça.
Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'une année Coupe du Monde, une année où il y a de tels enjeux économiques, et des enjeux à tous les niveaux, je pense qu'on aurait dû sacrifier une saison avec certains joueurs. Pour moi, je
sacrifier. C'est... Alors comment tu compenses ça ?
Tu compenses financièrement
avec le Stade Toulousain peut ça. Oui, mais
tu compenses. Mais il faut trouver une manière de les compenser. Quitte à perdre un titre de champion, quitte à perdre.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais
de dire ça,
champion de France au rabais.
Mais peu importe, c'est que là, il y a une telle Coupe du Monde qui peut nous rapporter, qui peut avoir des conséquences absolument invraisemblables si on est champion du monde. Imagine, si t'es champion du monde, ce que ça va faire
sûr,
dans le pays.
Je pense
qu'on peut sacrifier, une ossature de 15 joueurs qu'on dit, voilà, on les met un peu dans
le frigo.
Au frigo, et puis on les sort quand il faut.
Voilà, et ce qui a changé depuis quelques saisons.
Je le pense sincèrement. Après, je sais très bien que c'est très utopiste et que ça n'arrivera jamais.
Et ce qui a changé depuis quelques saisons, c'est surtout la densité du top 14, parce qu'à l'époque, le Stade Toulousain pouvait se permettre de faire tourner pour aller gagner, par exemple, à Brive, à Pau, à Perpignan, des équipes entre guillemets moins fortes qu'eux. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre. On se rappelle le Stade Toulousain l'année dernière qui s'est cassé les dents du côté de Perpignan. Beaucoup d'équipes, en fait, il n'y a plus de petites équipes et il n'y a plus de semaines où tu peux te dire, ce match-là, on peut faire l'équipe, comment il appelle Fabien, l'équipe développement. On peut envoyer l'équipe développement ce week-end en top 14, on gagnera quand même. C'est impossible aujourd'hui dans ce top 14.
L'équipe de France qui a reçu une très mauvaise nouvelle cet après-midi, et pas que l'équipe de France d'ailleurs, concernant Virimi Vakatawa, le centre du Racing et de l'équipe de France qui s'est vu interdire de poursuivre sa carrière professionnelle par la commission médicale de la Ligue. Est-ce qu'on en sait un peu plus pour le moment, Wilfried ? Je crois qu'il y aura une conférence de presse dans la semaine, mais là c'est tombé comme ça d'un seul coup. La sanction est terrible. Enfin, c'est pas une sanction, mais c'est une sanction médicale quelque part, oui.
C'est surtout le communiqué qui est tombé de manière terrible, de manière brutale. Le Racing qui a envoyé un communiqué, hein, en disant qu'il venait d'être informé de la décision de la commission médicale de la LNR, donc d'interdire à Virimi Vekatawa la poursuite de sa carrière. Alors ce serait un problème, on va avec pincette, hein, ce serait un problème cardiaque. Évidemment, je pense que le président Lorenzetti nous expliquera tout au moment de cette conférence de presse, mais c'est très brutal. Hein. Virimi Vekatawa, il a 30 ans, 32 sélections avec l'équipe de France. Il était au Japon avec l'équipe de France lors des deux tests victorieux au mois de juillet. Et puis voilà, c'est un élément important de cette équipe de France qui avait fait une superbe Coupe du Monde en 2000, enfin qui est passé par le rugby à 7 avant, l'équipe de France à 7, qui avait fait une superbe Coupe du Monde en 2019. Il est d'ailleurs, je me suis rappelé qu'il avait remplacé Doumerou. C'était le forfait de Doumerou qui avait entraîné la sélection de Virimi Vekatawa, qui avait fait une énorme Coupe du Monde, qui avait fait deux grosses années avec Fabien Galthié, qui l'année dernière était moins en vue en équipe de France. Il s'était fait passer devant par les Danti, par les Moefana. Mais bon, voilà, au-delà de tout ça, de tous ces chiffres, de tout ce qu'on peut dire, c'est avoir une pensée pour lui aussi, parce qu'à 30 ans, on a encore de belles années à donner au rugby français. Donc on attendra d'en savoir plus, mais a priori, donc ce serait un problème cardiaque pour Virimi Vekatawa. Et c'est aussi bizarre d'arriver à 30 ans comme ça et de décider quelque chose comme ça.
Ouais. Coup dur, ce qui est intriguant dans le communiqué, c'est qu'ils disent que c'est la fin de sa carrière en France. Donc ça veut dire que c'est les dispositifs du rugby français qui l'interdisent de jouer en France. Moi, je me rappelle de Juan Figalo, le pilier en Montpellierin, qui était interdit de jouer en France pour des problèmes au cervical, lui, mais qui avait eu l'autorisation de jouer en Angleterre.
Exactement. Qui avait pareil, mais c'était cervical. Là, si c'est cardiaque.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut des. Non, mais après, c'est cardiaque, c'est différent. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il est bien précisé en France et que du coup, peut-être qu'il pourrait continuer ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très surprenant et c'est tombé d'un coup de manière surprenante.
Ouais, on a vu Eriksen aussi, le joueur de foot, qui lui a pu aller jouer en Angleterre et a repris sa carrière après avoir subi une batterie de tests. Terrible, malgré tout, terrible pour Virimi, pour le Racing et pour l'équipe de France. Même si c'est vrai, comme le disait Wilfried, la saison dernière avait été moins flamboyante pour Virimi, mais en 2019-2020, il était considéré comme l'un des meilleurs centres au monde.
Ah bah, il faisait des choses extraordinaires, comme on peut voir les Fidjiens réaliser constamment. Donc,
en contre un.
En contre un, il était imbattable. Et après, c'est vrai qu'après, il a manqué d'explosivité. C'était plus le même joueur.
Ouais, c'était plus du tout le même joueur. D'ailleurs, la raison de santé.
Oui, peut-être, mais c'est vrai qu'il avait du mal. Et lui-même, moi, j'avais discuté avec lui au Racing. J'étais allé faire des photos avec lui pour un magazine. Et j'avais discuté avec lui. Et lui, il me disait qu'il y avait des problèmes musculaires et des problèmes. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il n'arrivait pas. Il espérait, mais c'est vrai que c'est un garçon incroyablement gentil, agréable. C'est triste, c'est terrible.
Voilà, et on en saura sans doute un peu plus dans les heures qui viennent concernant Virimi Vekatawa. Donc, je vous le disais, interdit de poursuivre sa carrière professionnelle, décision prise par la commission médicale de la Ligue. Il ne fera donc pas partie de la prochaine liste de Fabien Galthié, celle qui sera communiquée pour la tournée du mois de novembre, qui constituera cette tournée le premier étage de la Fusée France au programme. Là, c'est pas Fabien Galthié qui dit ça, hein, mais bon, ça, il pourrait. Au programme du mois de novembre, donc l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Programme copieux, notamment le match face aux Bucks, champion du monde en titre, une équipe qui reste sur 7 tests consécutifs gagnants face aux Bleus, qu'ils n'ont plus affronté.
Et que Galthié n'a jamais affronté encore.
Ah oui, voilà, donc il ne les a jamais affrontés, il ne les a jamais battus. Battre les champions du monde en novembre, Wilfried, ce serait un moment clé dans la préparation des Bleus, ce serait vraiment un indicateur
évidemment.
De plus.
Évidemment, parce qu'ils sont champions du monde en titre, parce qu'ils impressionnent. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une équipe qui, voilà, on a basé nos succès sur l'engagement physique, sur la domination devant. Et là, si vous voulez un test par rapport à ça, eux, c'est leur culture, c'est leur ADN. Et je pense que c'est au stade Vélodrome, en plus, ça va être génial, hein. Messieurs, ça va faire des étincelles devant. S'il y a une équipe qui peut nous contrer devant, c'est peut-être les Sud-Africains. Si on les bat, ça sera un message envoyé, hein.
Ouais. Week-end, j'en ai vu des boxes invraisemblables en Australie. Mattel, cette équipe australienne, qui n'est pas la meilleure équipe, enfin, qui avait quand même gagné des matchs contre les Blacks, il me semble. Mais là, ils se sont fait punir. Hein. Punir devant, ça va être un vrai combat d'avant, un vrai engagement. Et je ne vois pas les Bucks fatigués en novembre. Donc, ils vont avoir une belle équipe.
Même s'ils sont en fin de saison, oui. Et qu'on sait que le mois de novembre, pour les équipes du Sud,
ils sont un peu plus compliqués.
Encore
plus compliqué.
Que là, il va falloir peut-être changer un peu le curseur du temps.
Ils sont dans la Coupe d'Europe maintenant.
Exactement. Hein. Oui. Donc, il faut être concurrentiel, il faut être en forme pour la Coupe d'Europe. L'Afrique du Sud, Léo, tu la vois comme la principale concurrente de la France pour le titre mondial ou tu vois une autre équipe capable plus encore de nous embêter ?
principale concurrente, je sais pas, en tout cas c'est la dernière grande nation qu'on n'a pas battue déjà. Toutes les autres on les a battues, c'est fait. Après ouais, je rejoins un peu Wilfried, c'est vrai que sur le papier, on voit que l'équipe de France ça va très vite, mais c'est une équipe qui marque sans multiplier les temps de jeu parce qu'on est très dominant devant, et que la kryptonite c'est peut-être le pack sud-africain, donc le test ultime, je sais pas si c'est les plus dangereux, mais en tout cas ça paraît être un peu notre test ultime, ouais. Donc on en saura plus en novembre, si on est capable de les dominer eux aussi physiquement. La route, elle se dégage. Alors, ça fait pas l'assurance des champions du monde, mais ça fera de nous en tout cas un favori assez clair, ouais.
C'est messieurs, sur le tableau, je sais pas si vous avez jeté un œil déjà sur le tableau de la Coupe du Monde. On ferait bien de battre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture,
sinon,
parce que
on
les prend en quart de finale, en imaginant qu'ils vont battre l'Irlande en poule. Hein. Mais si on arrive à battre les Blacks, on prendrait l'Irlande en quart de finale et on serait du côté du tableau de l'Angleterre a priori si l'Angleterre bat l'Australie.
Mais tu préfères l'Irlande ou tu préfères l'Afrique du Sud? Je sais pas moi.
Bah si, parce que l'Irlande ça a toujours réussi, ça a toujours souri, c'est en France. Moi, je préfère prendre l'Irlande en quart que les Bocs.
D'accord.
Moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir l'Angleterre en demi-finale. les Anglais pour venir nous briser notre rêve à une marche de la finale.
C'est déjà arrivé, alors, me semble-t-il.
C'est arrivé deux fois.
En 2007. Ouais.
2007-2003.
Mais là, on n'était pas chez nous. On était en Australie. Pour la prophylaxie, c'est quand même moyen d'affronter les Springboks, quand même.
Non. Tu as raison. On va prendre un pet,
c'est pas idéal.
Pour dire ça.
Tiens, t'en veux de la prophylaxie?
Voilà. Petit mot pour finir sur les All Blacks, évidemment, l'équipe qu'on affrontera donc en match d'ouverture, les All Blacks qu'on disait au bord du précipice la semaine dernière. Bon, voilà, ils nous ont rassurés, ils ont surtout rassuré leurs supporters, ils ont véritablement étrié les Pumas, 53-3, ils reviennent dans le jeu.
Alors, c'est pas significatif, mais en tout cas, on a revu des Blacks conquérants et surtout très agressifs, ce qu'ils avaient oublié de faire. Donc, à mon avis, le message, il est passé. Ils ont remis la marche avant. Après, face à des Argentins sûrement fatigués de l'exploit qu'ils avaient réalisé une semaine avant. Donc, c'est pas...
Ils sont en tête, Denis, du rugby championship. Hein.
Oui, bien
ils
sûr. Tête, je pense qu'ils vont le gagner, même.
En tout cas, c'est serré. Pour une fois, le championship est très serré cette année. Hein. Ce n'est pas le cas les années précédentes.
Après, ils manquent de constance, les Blacks. Ils avaient réagi en Afrique du Sud avant de s'incliner contre l'Argentine. Attention à ne pas non plus les voir très beaux samedi et qui rechutent dans une semaine, parce qu'on sent que cette équipe, elle est quand même capable d'enchaîner les très hauts et les très bas.
Très bien, en tout cas bah, voilà une année excitante qui s'annonce justement à ce 8 septembre 2023, date de ce France-Nouvelle-Zélande.
On y sera évidemment.
Bah oui, on y sera, on a intérêt à y être. Hein. On y sera forcément. Merci les garçons, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux.
Bonne prophylaxie alors.
Bonne prophylaxie, faites attention à vous. Bonne semaine, ciao ciao.